Donc le tempérament, c'est une prédisposition innée à réagir d'une certaine manière. Autrement dit, c'est la réaction qu'on va avoir naturellement dans une situation donnée. Alors ça peut être des réactions positives ou complètement négatives. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est probablement le point le plus important de la définition, c'est que le tempérament, c'est quelque chose qui est biologique. On ne choisit pas. On ne choisit pas son tempérament. C'est-à-dire qu'on va naître avec un tempérament et on va mourir avec son tempérament. C'est-à-dire qu'avec ses forces et ses faiblesses. Autrement dit, c'est un don de Dieu. Voilà, c'est quelque chose qu'on a dès le départ et on l'aura jusqu'à la fin. Alors, on le verra après, on va décrire les quatre tempéraments qui existent. Vous verrez, il n'y a pas de bon ou de mauvais tempérament. Même si nos préjugés nous font penser qu'il y en a un qui est un peu meilleur que l'autre, forcément le sien est meilleur que celui des autres. Mais en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais tempérament. Chaque tempérament a ses forces et ses faiblesses. Donc voilà, donc le tempérament, c'est ça. C'est quelque chose qui est biologique, on n'y peut rien. D'accord? C'est naturel. Ensuite, il y a le caractère. Alors là, on rentre dans le dur. Parce que le caractère, donc la définition, elle est notée ici, c'est composé de vertus. Donc une vertu, c'est quoi? C'est une habitude morale acquise et développée par la pratique. Donc, bon, bah, c'est écrit, hein? Nous ne sommes pas nés avec notre caractère, nous le construisons. Autrement dit que, bah, en fait, le caractère, on ne l'a pas dès la naissance. C'est-à-dire qu'on va devoir se le forger, se le construire au fur et à mesure des années. Autrement dit, on n'est pas né. On ne naît pas avec, pardon. Donc on va le développer avec sa propre liberté, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne développeront jamais leur caractère. C'est-à-dire qui vous diront très simplement, moi je suis comme ça et c'est comme ça. Bon, ben, en général, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas tellement envie de développer son caractère. Et en tout cas, les vertus qui composent notre caractère. Alors pourquoi cet atelier? C'est en gros l'objectif. L'intérêt que j'y vois, c'est, alors ça peut paraître un peu pompeux, mais après vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est donner du sens à sa vie. C'est donner du sens à sa vie. Alors ça passe par viser l'excellence. Alors ce qu'on entend par viser l'excellence, c'est devenir une personne accomplie. Voilà, tout simplement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même un prérequis. Puisqu'on va parler de tempérament et de caractère, ça veut dire que, bah, il faut déjà connaître son propre tempérament. Donc ça, on vous dira au fur et à mesure comment découvrir son propre tempérament. Il va falloir avoir conscience de ses forces, des forces de ce tempérament et des faiblesses. Mais aussi quelque chose de très important, puisque c'est l'un des thèmes du festival, c'est l'unité. Eh bien, va falloir avoir conscience qu'en fait, on n'a pas tous le même tempérament. Donc il va falloir aussi accepter cette diversité. Alors, devenir une personne accomplie, ça passe justement par le développement du caractère et le développement des vertus. Alors l'intérêt, c'est que ça va permettre de surmonter les faiblesses de notre tempérament, voire de les mortifier. C'est un peu ça l'idée.
Donc, en synthèse, le leadership vertueux permet de devenir une personne accomplie et en faisant sortir le meilleur de nous-mêmes, en apprenant à faire grandir toutes les vertus naturelles à l'homme. Et il y a aussi un prérequis, c'est l'ordre naturel de la personne humaine. Aujourd'hui, ça peut être remis en question. Donc là, il faut vraiment se concentrer sur la nature humaine dans l'ordre naturel tel que nous avons été créés. Et c'est pour ça que le leadership vertueux s'appuie sur la science de l'homme qui date de 300 ans avant Jésus-Christ, puisqu'on va décrire les quatre humeurs qui avaient été développées par Hippocrate à l'époque. Donc c'est une connaissance qui date de millénaires. Donc c'est pas quelque chose qui est récent. Ça a été éprouvé et aujourd'hui c'est vraiment validé. On va dire que c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui. Donc on peut faire confiance à toute cette analyse de la personne humaine. Et enfin, le leadership, c'est quoi? C'est contraire à ce que nous avons l'habitude de voir aujourd'hui. Il ne s'agit pas de manipuler ou d'être dans un mensonge, puisque là, on inverse les valeurs en se mettant au service des autres et en faisant grandir la personne qui nous est proche, que nous soyons parents, éducateurs, au travail, prêtres, religieuses, on a toujours des proches autour de nous. Et le leader, il va avoir envie de faire sortir le meilleur des personnes qui l'entourent. Alors justement, est-ce que le leadership vertueux, c'est une nouvelle technique de coaching ou de management ?
Non, pas du tout. Le nom peut faire peur, hein, quand on parle de leadership. Vous allez à la FNAC, vous allez dans le rayon leadership, on va vous proposer 150 000 bouquins sur le développement personnel. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout une technique de développement personnel. C'est pas du coaching, c'est pas du management. Hein. Le management, c'est ce qui fait avancer les choses. Le leadership, c'est quelque chose qui fait plutôt avancer les personnes. Voilà. Alors, c'est pas une nouveauté. Bon, tu l'as déjà dit, hein, puisque ça date de la Grèce antique. Alors, c'est même Aristote qui, au départ, avait parlé de ça. Puis ensuite, Hippocrate, il a repris le dossier. Il a décrit effectivement les quatre humeurs qui se sont transformées en quatre tempéraments. Ce n'est pas une idéologie aussi, je le précise. Beaucoup d'idéologies aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, hein, surtout dans le monde dans lequel on vit, puisque c'est basé sur des choses vraies, c'est-à-dire les choses qui sont décrites qui concernent la nature humaine. Voilà, tout simplement. Alors, bien entendu, c'est un prérequis. Il faut croire à la nature humaine. Celui qui ne croit pas à la nature humaine, c'est beaucoup bafoué aujourd'hui. Hein, je ne vous fais pas de schéma. Ça va être compliqué, mais c'est quand même la base de cet outil, c'est que c'est basé, enfin nous c'est ce qui nous porte, hein, c'est, on pense que c'est la vérité, de la nature humaine. Voilà.
Donc on va découvrir les quatre tempéraments dont on parle. Alors on rappelle bien que le tempérament est biologique, qu'il est reçu comme un don de Dieu, et donc il est moralement neutre. On n'a pas à dire qu'un tempérament est bon ou mauvais. Le tempérament est tel qu'on le reçoit de Dieu et il est forcément bon puisqu'on est créé par Dieu et le tempérament est vraiment sans jugement. Et d'ailleurs, c'est beau d'apprendre avec le leadership vertueux de découvrir les richesses des tempéraments qui sont de fait opposés aux nôtres et qui finalement deviennent complémentaires. Donc, les quatre tempéraments, vous avez le colérique. Alors, le colérique, il est guidé par l'action. C'est un manager et il veut faire avancer les choses. Il ne veut pas faire avancer les personnes, il veut faire avancer les choses. Ça, c'est le moteur du colérique. Ensuite, vous avez le mélancolique. Le mélancolique, c'est la personne qui est habitée par son monde intérieur, ses idées. Et on parle de contemplatif. Vous avez ensuite le sanguin qui, lui, est animé par les personnes. Le sanguin, il aime être en relation. C'est la personne qui vit de ses relations aux autres. C'est un communicant. Et enfin, le flegmatique qui, lui, est animé par la paix. Il recherche toujours la paix. Donc, le flegmatique, on l'appelle aussi le modérateur. Le tempérament, il est... En général, on a un tempérament principal et un tempérament secondaire. Il y a un tempérament dominant et un tempérament secondaire. Et certains tempéraments excluent d'autres. Donc, le mélancolique ne peut pas être sanguin, par exemple, et le colérique ne peut pas être flegmatique. Le tempérament se découvre plus facilement avant le développement des vertus, donc idéalement avant 12-15 ans, puisqu'on espère que la plupart des gens, par leur éducation, font grandir leur tempérament en acquérant certaines vertus. Donc il est plus simple de découvrir le tempérament avant l'acquisition des vertus, et donc c'est en général avant 12-15 ans.
Oui, je peux vous parler du colérique. Alors, je vais mettre une critique sur les noms qui ont été choisis par Hippocrate à l'époque. C'est des termes assez péjoratifs. Le colérique, c'est pas celui qui se roule par terre à la moindre contrariété. Hein? Et ça, c'est valable pour les autres tempéraments aussi. C'est plutôt des mots négatifs qui ont été choisis. Non, le colérique, on l'a dit, c'est celui qui est porté par l'action. Il a une réactivité qui est momentanée, c'est-à-dire qu'il réagit face à une situation dans le moment, tout de suite, très rapidement. C'est quelqu'un de plutôt stable. Globalement, c'est quelqu'un qui a toujours un temps d'avance. Il vit dans le futur. Voilà. Alors, Pour chaque tempérament, on va décliner à la fois les forces et les faiblesses. C'est des personnes qui ont beaucoup d'énergie, très enthousiastes. Pour eux, prendre une décision, c'est pas compliqué. Voilà. Ils ne vont pas tourner autour du pot, ça va aller extrêmement vite. C'est des personnes qui ont confiance en leur talent. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs d'eux. D'ailleurs, on le dit, on le voit chez certains, on dit, bah, lui, il a vraiment confiance en lui. Ce sont des entrepreneurs nés, puisque comme ils sont dans l'action, il faut toujours qu'ils fassent quelque chose. C'est un manager né. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent en entreprise, ou peut-être même dans les services ressources humaines ici dans la salle. Enfin, moi, j'ai travaillé en entreprise pendant longtemps. Et il y a des gens qui sont pas faits pour être managers, c'est comme ça. Ils ont d'autres talents que le management. Bah, le colérique, ça fait partie de ses forces. C'est un manager né. Hein? Donc le manager, tu l'as dit, c'est celui qui fait avancer les choses, pas les hommes. Il fait avancer les choses. Donc voilà pour les forces. Alors vous verrez que pour chaque tempérament, les faiblesses, c'est souvent le miroir des qualités, hein? Alors comme c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui, eh ben en fait, il a tendance à l'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience que le fait qu'il soit sûr de lui, ce soit un don de Dieu. Lui, il pense que c'est parce que c'est grâce à son travail qu'il a cette force. Alors que non, on l'a dit, un tempérament, c'est le don de Dieu. Ça a été donné naturellement. Donc forcément, eh ben dans cette situation, il pense que c'est grâce à son travail. Qu'il a confiance en lui, donc ça l'amène parfois à être un petit peu orgueilleux. Donc c'est ce qui est écrit, enclin à l'orgueil et à la colère aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui aime être contrarié. Alors ne prends pas le temps de délibérer pour décider. Ça concerne tout ce qui est bien entendu décision. Il va foncer, c'est-à-dire que quand il va devoir prendre une décision, il va pas tourner autour du pot. Il ne va pas attendre de récolter 10 000 données pour prendre sa décision. Il va se fier à son instinct et prendre des décisions extrêmement rapidement. Donc ça peut être un souci parce que, ben, on le verra après, quand on va parler de prudence, qui est une vertu qu'on peut tous développer. La prudence, c'est la vertu de prendre les bonnes décisions. Et bien pour prendre une bonne décision, il faut quand même réfléchir un petit peu avant. Alors, le colérique, voilà, ça, il a un peu du mal à faire ça. Enclin à l'activisme aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'ennuyer. Enclin à la confrontation et à la dictature, hein. Globalement, le colérique, c'est pas qu'il s'en fiche des autres, mais il s'intéresse plus à l'action qu'aux personnes. Donc, il aura tendance à imposer ses idées. Voilà. C'est-à-dire que l'écoute, pour lui, ça va être un peu compliqué. Ne reconnaît pas facilement ses erreurs. Ah ben non, forcément, puisqu'il a énormément confiance en lui. Donc c'est lui qui a raison, donc c'est les autres qui ont tort. Donc il a du mal à reconnaître ses erreurs. Et voilà, comme il est plus intéressé par l'action, les faits, que par les personnes, eh bien il a un peu du mal à respecter les sentiments des autres, à les faire grandir et à déléguer. Typiquement, c'est la personne qui... Ah moi, je délègue pas, parce que moi, je sais faire. Vous voyez? Alors, si je délègue, l'autre, il ne va pas savoir faire. Donc, je préfère faire moi-même. Et un peu du mal à servir. Alors, autre tempérament, le mélancolique. Donc, lui, c'est vraiment l'idée qui l'occupe. C'est vraiment l'idée qui l'occupe. Il a une réactivité plutôt tardive dans les situations, contrairement au colérique. Alors, on l'a vu, hein, le colérique, il se projette, il vit dans le futur. Le mélancolique, il a plutôt à vivre dans le passé. Typiquement, il y a eu beaucoup de grands artistes, des écrivains, des peintres, qui étaient mélancoliques. Voilà. Il y a pas mal de gens très créatifs qui ont un tempérament mélancolique au départ. Alors, ses forces, enclin à la contemplation, observer les choses, passer du temps à regarder les choses, les belles choses. Passer du temps à réfléchir. Pourquoi pas passer du temps à écrire d'ailleurs aussi. Il cherche la perfection en toute chose. Bon, ça on le verra. Ça conduit à un inconvénient. Mais en tout cas, effectivement, si on veut que quelque chose soit parfait, ben, on s'adresse à un mélancolique. Il va forcément penser à tout et avoir les détails. Bon, c'est quelqu'un plutôt indépendant. Donc il est capable de discerner tout seul. Voilà. Ce sont des personnes patientes et endurantes. Donc ça, ce sont les forces du mélancolique. Alors, les faiblesses, toujours pareil, hein, c'est le miroir. Comme il est indépendant, il a tendance à être auto-absorbé dans ses propres idées, dans ses propres sentiments. Alors, il est enclin à la contemplation, c'est-à-dire qu'il va beaucoup réfléchir sur les choses, sur les gens. Et quand il va devoir prendre des décisions, pour lui, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, il craint l'action, il craint l'incertitude, il n'aime pas prendre des risques. Donc tout ça, ce sont des freins à l'action. Donc on le verra, hein, mais il a une vertu principale qui devra développer, le mélancolique, par rapport à tout ça. Il a du mal à se mettre en action, voilà. Il est dans la réflexion, dans la réflexion, dans la réflexion. Et il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Donc n'aime pas prendre de risques, comment ?
Et la perfection.
Et la perfection, voilà. Alors ça, voilà, tout est lié, parce que comme il cherche la perfection, et puis je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que rien n'est parfait, ni les choses, ni les êtres humains, en fait, il n'obtiendra jamais la perfection, quel que soit ce qu'il fasse. Donc en fait, il ne va jamais prendre de décision, puisqu'il n'atteindra jamais la perfection. Donc là, il y a un enjeu chez lui à développer. S'inquiète pour des petites choses sans importance, tout ça, c'est lié. Hein. C'est un mauvais équipier aussi, puisqu'il est, comme il est plutôt sur lui-même, il s'intéresse à lui, hein, principalement. Hein. Se sent facilement offensé et tendance à critiquer les autres aussi. Oui, puisqu'ils ne sont pas parfaits. Donc autant les voir les critiquer, tout simplement.
Et le sanguin, alors il est en temporalité, il est dans la réactivité momentanée, spontanée et éphémère. Voilà, donc c'est la personne qui aime vivre au temps présent. On oublie le passé, on pense pas à demain. Le principal, c'est de se faire plaisir tout de suite et maintenant. On rencontre des gens sympas, on en profite, on s'arrête. On passe du bon temps quelque part. Tant qu'on est content, on continue. Bon, ça, c'est le sanguin. Il vit de sa relation avec les personnes. Et c'est vraiment ce qui l'anime. Donc, les forces du sanguin, c'est d'aimer les personnes et de désirer profondément les rendre heureuses. C'est la personne qui est amicale, compatissante. C'est un communicant, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et un entreprenant. Alors, c'est un entreprenant parce que le sanguin, dès qu'il voit un bon tuyau, il va y aller, il fonce. Il se dit, ça c'est une bonne idée, je vais le faire. Et tant qu'il y a de l'amusement et du plaisir quelque part, il va le faire. Voilà, donc tous les jours, il se réveille avec une nouvelle idée, un nouveau projet. Donc le sanguin, il aime l'aventure, donc il peut être entreprenant. Après, toutes les forces, évidemment, génèrent aussi les faiblesses. Il a les sens externes toujours en éveil. Il remarque tout, il observe tous les détails, il ressent tout. C'est quelqu'un de très sensible, le sanguin. Voilà. Et comme il aime les personnes, il aime observer, regarder ce qui caractérise chaque personne qui l'entoure. Voilà. C'est quelqu'un qui vit des autres et qui vit au travers des autres. Et donc, les faiblesses associées au sanguin, c'est qu'il a du mal à contrôler les sens externes. Il peut être un peu trop extraverti, il a tendance à se faire remarquer, à éclater de rire, à faire beaucoup le guignol. Donc, ça peut être compliqué. En classe, par exemple, l'élève sanguin, dès qu'il peut faire marrer la classe, il fait marrer la classe. Parce que lui, faut que la journée passe vite en rigolant. D'accord ? Donc tout ça, c'est les faiblesses du sanguin qui sont à faire grandir. Alors le sanguin, on peut se dire de l'extérieur qu'il est superficiel et instable. Comme je vous l'ai dit, comme tous les matins, il a une nouvelle idée et un nouveau projet. Il peut avoir oublié le projet du mois dernier. S'il en a trouvé un plus sympa à faire... ce mois-ci, il zappe celui du mois dernier pour en recommencer un nouveau ce mois-ci. Voilà. Il est attiré par la nouveauté et il veut plaire, il veut que tout le monde l'aime. Donc là aussi, C'est une faiblesse de vouloir plaire et que tout le monde l'aime parce que il est un peu enclin à beaucoup de rumination, de projection, de ses sens externes qui sont tellement en éveil. Il a tendance à se faire des films un peu sur tout ce qui peut se passer autour de lui. Voilà.
Il vit dans le présent, tu voulais dire aussi.
Oui.
Il vit l'instant présent.
C'est ça.
Hein?
On peut croire aussi que le phlegmatique, il est paresseux. Parce que le phlegmatique, il a une réactivité tardive. C'est l'enfant à qui on dit « tu vas ranger ta chambre ?»« Oui, oui. » Alors, il vous dit « oui, hein, il n'y a pas de problème, mais ce sera demain. » Tu vas se mettre en action. Voilà, la réactivité est tardive. Elle est mesurée. C'est pas à l'inverse du sanguin qui est complètement extraverti. Le phlegmatique est mesuré et ses réactions sont éphémères. Donc, une réactivité tardive, mesurée et éphémère. Et comme on l'a dit au départ, le phlegmatique, son moteur principal, c'est la recherche de la paix. Il recherche la paix, c'est le modérateur. Alors, les forces du phlegmatique. Alors, par contre, il est hors temps. Il est un peu comme il est dans son... Il est un peu hors du temps, le phlegmatique. On ne peut pas dire comme les autres tempéraments qu'on arrive bien à savoir s'ils sont dans le passé, le présent, le futur. Le phlegmatique, il réunit toutes les... Il est atemporel, le phlegmatique. Voilà. Alors, ses forces, c'est qu'il a une approche de la réalité naturelle. Il est cartésien, très scientifique, rationnel. Et en général, c'est un dépassionné. Donc, ça fait partie des forces du phlegmatique. Il sait écouter et il est empathique. Et le phlegmatique, il se caractérise aussi par le sens profond du devoir, puisqu'il recherche toujours la paix. Il sait que s'il fait ce qu'il a à faire, on lui fichera la paix. Donc lui, c'est son moteur. Et ça fait partie de ses forces. C'est que naturellement, c'est une personne qui a le sens du devoir et de la coopération. En équipe, il est formidable. Voilà. Il a une volonté de faire, mais c'est caché. Toujours pareil, le phlegmatique, on ne voit pas. C'est la personne qui est vraiment au service des autres sans se faire remarquer puisqu'il est dépassionné. On ne voit pas. Mais c'est la personne qui est au service des autres et donc qui a une très forte volonté. Il est constant et persévérant, on peut compter sur lui, puisqu'il a le sens profond du devoir. Et c'est très compliqué de lui faire perdre son calme. Alors, les faiblesses du phlegmatique, c'est que c'est la personne qui, comme il veut pas avoir de problème, qui recherche la paix, il va un peu être influençable. Voilà, il nage dans le sens du courant, on aime le statu quo, on fait pas de vagues, tout va bien, tout est... faut rechercher toujours le calme, la paix, donc on va dans le sens du vent. On aime le statu quo, puisque si on est dans une situation stable et paisible, on bouge pas, hein. Surtout on reste là où on est. On évite de contrarier toute stabilité. On évite à tout prix les conflits, bien évidemment. Et le phlegmatique, il a souvent peur de se tromper. C'est quelqu'un qui se sent vite dépassé et qui a pas beaucoup confiance en lui. Donc, ça fait partie des vertus à développer chez le phlegmatique, de lui apprendre à se tromper, à voir que quand on se trompe, eh ben, c'est pas grave, on rebondit et aller au-delà des limites.
Alors, j'ai quand même deux remarques à faire par rapport au tempérament. On l'a déjà plus ou moins dit. Comme c'est quelque chose qui est biologique, naturel, en fait, on n'y peut rien. Donc, on n'a aucun jugement moral à porter sur tel ou tel tempérament. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième remarque, il faut distinguer, vous avez vu, pour chaque tempérament, on a parlé des forces et des faiblesses. Je vais rajouter une strate. Je parle de force biologique et de force spirituelle. La force biologique, je l'ai dit, c'est ce que nous a, c'est le don, c'est naturel, c'est ce qu'on nous a donné, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors, il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que si je suis colérique et que je sais que l'une de mes forces, c'est l'action, mais que cette force est uniquement naturelle, le jour où je suis malade, ben je ne fais plus rien. Parce que cette force n'est que naturelle. Donc l'idée, quand on connaît son tempérament, c'est également d'entretenir ses forces pour qu'elles deviennent spirituelles. C'est-à-dire qu'on soit capable de les mobiliser comme si ce n'était pas un don naturel. Je ne sais pas si je suis clair. Mais vous voyez, c'est le niveau du dessus. Il ne faut pas s'arrêter au niveau « Ah ben c'est bon, on me l'a donné, j'ai plus rien à faire. » Non. D'accord ? Pour devenir une personne accomplie, ses forces, elles doivent être entretenues. En toutes circonstances.
Le leadership vertueux, moi j'aime bien le comparer au sport, quelque part. C'est que là, on va muscler notre personnalité avec le leadership vertueux. On ne va pas être dans la passivité. On va comprendre qui nous sommes, comprendre les autres et s'enrichir en essayant de grandir dans les vertus. Donc, les vertus, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des habitudes morales acquises et développées par la pratique. Le gros avantage, c'est que là où on a vraiment quelque chose à faire, c'est sur le fait de forger notre caractère. D'accord ? Donc, notre tempérament, ça va être notre base sur laquelle on va démarrer. Et maintenant, on va parler du caractère en faisant grandir les vertus en nous pour devenir des personnes accomplies et des personnes qui vont se mettre au service des autres. Donc, on construit notre caractère comme un entraînement. Et là, on va découper les vertus. Donc, vous avez les vertus de base qui sont les premières pierres, quelque part, de la personne pour qu'elle s'accomplisse. Il y a la vertu de l'intelligence qui est la prudence. Et la prudence est le fait de savoir prendre les bonnes décisions. Donc là, on a la prudence qui est une vertu de l'intelligence. Ensuite, on a les trois autres vertus qui sont les vertus de la volonté. Il s'agit du courage, en sachant prendre des risques et tenir le cap. La maîtrise de soi, en dirigeant nos passions. Et la dernière vertu de la volonté, qui est la justice, savoir donner à chacun son dû. C'est la parole du jour en plus. Ensuite, on va parler des vertus du cœur, qui sont la magnanimité. La magnanimité, c'est tendre vers les grandes choses. Il y a le livre d'Alexandre Dianine, qui est le fondateur du leadership vertueux, qui a un livre qui s'appelle « Créer pour la grandeur ». Voilà, donc ça, c'est la magnanimité. On est créé pour la grandeur. Et l'humilité, c'est le fait de se mettre au service des autres. Voilà. Donc, pour devenir une personne accomplie, on développe les quatre vertus de base. La prudence, le courage, la maîtrise de soi et la justice. Et pour devenir un leader, on développe à partir des vertus de base la magnanimité et l'humilité.
La première remarque, c'est, je voulais faire un point sur la différence entre une vertu et une valeur. Parce que souvent on confond les deux. Les valeurs, c'est la famille, c'est l'Église, c'est Dieu. C'est la nation, la patrie, ça, ce sont des valeurs. Mais en fait, c'est bien d'avoir des valeurs, hein, on en a tous. Sauf que les valeurs comme ça, prises isolément, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les valeurs ne vont avoir du sens que si on développe ces vertus derrière. La vertu, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, ça vient de nous. À nous de travailler nos vertus pour tendre vers une personne accomplie. La valeur, c'est quelque chose, c'est plus une idée, c'est plus quelque chose qui est extérieur à nous. Deuxième point, c'est que en fait, en développant les vertus, on va également développer la confiance. Alors non seulement la confiance en soi, mais également inspirer confiance aux autres, puisqu'on va devenir une personne accomplie.
On parlait du tempérament sur lequel on ne peut pas agir et qui est donc il est moralement neutre. Les vertus ont besoin d'être orientées vers le bien, le beau et la vérité. Ça, là, on est vraiment dans une certaine sorte de radicalité. Il y a de la morale dans la vertu. On n'est pas dans le relativisme. C'est pas un peu bien, c'est pas grave, etc. Et on verra aussi, en développant les vertus, que c'est ce qui va permettre d'acquérir la paix intérieure. Parce que quand on fait grandir en nous la recherche du bien, la recherche de la vérité, eh bien, on devient une âme stable. Et dans ce monde instable, devenir une âme stable, c'est un vrai trésor. Pour nous, mais pour les autres aussi. Donc, dans la vertu, il y a vraiment cette notion de bien. Ça, j'insiste beaucoup dessus.
Alors, première vertu, c'est la vertu de prudence. Alors, la prudence, ça ne veut pas dire être prudent. C'est la vertu de l'intelligence pratique. Prudence, c'est prendre les bonnes décisions. Donc, à quoi va nous servir la prudence? Ça va nous servir à percevoir leur situation, de leur complexité. Et ensuite, prendre les décisions de manière conforme à ce qu'on a perçu. Alors, on va se planter, hein, parfois. Hein. Mais en tout cas, c'est ça. Ça ne signifie pas non plus être rusé, futé, malin. Non, ça consiste à prendre les bonnes décisions. Donc là, normalement, il y a une question. C'est quoi une bonne décision? Mais tu t'y as déjà répondu, un petit peu. Une bonne décision, c'est une décision qui est conforme à la réalité des choses et des personnes, c'est-à-dire à leur dignité. C'est la recherche du bien, quel que soit le résultat. C'est la recherche du bien, quel que soit le résultat. Ça veut dire que parfois, on va prendre des bonnes décisions avec un mauvais résultat, mais ça veut dire aussi que parfois, on va prendre des mauvaises décisions avec un bon résultat. Quand je dis mauvaise décision, c'est moralement, c'est pas une bonne décision.
Moi, j'aime beaucoup le fait de c'est bien ou c'est mal. Voilà, faut être. C'est comme ça, avec les vertus, c'est moralement bon, moralement mauvais, et il n'y a pas d'entre-deux. Voilà.
Donc voilà. Alors, oui, c'est ça une bonne décision en fait. C'est une décision qui est en phase avec la réalité des choses. Si on reconstruit la réalité, en fait, on se ment à soi-même. On se ment à soi-même. Pour servir nos propres intérêts ou tout simplement pour nourrir nos propres émotions. Tout simplement. Et ça, c'est pas bon. Il y a deux volets. La prudence. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la délibération. Donc là, c'est ce qui est écrit sur le diaporama. La délibération, qui normalement est la première étape, hein, c'est regarder la réalité en face. Ne pas se mentir. Refuser de se mentir à soi-même, c'est ce que je viens de dire. Et pourquoi pas demander conseil aussi. Donc, demander conseil, ça nécessite un peu d'humilité. Là, vous voyez tout de suite, par exemple, pour un colérique, la délibération, ce n'est pas forcément facile pour lui. Ben pourquoi? Parce qu'il va devoir demander à quelqu'un qui est moins bon que lui. Ça, c'est dans sa perception. Hein. Donc, demander conseil. Alors, on peut demander conseil pour nourrir cette délibération. Mais attention, hein, si le résultat n'est pas bon, après, on ne rappelle pas la personne en expliquant « Ah ben non, tu ne m'as pas donné la bonne information. » Non, c'est nous qui sommes maîtres de la décision, quoi qu'il arrive. Donc c'est ça la délibération. Et ensuite, bien entendu, il y a la phase de décision. Et c'est surmonter la peur de se tromper. Parce que de toute façon, si on se trompe, je vais dire un truc qu'on a déjà tous entendu, mais ça nous fait grandir quand même. Hein, se tromper, ça fait grandir aussi. On apprend de nos échecs, ça c'est une réalité. Et quand on a pris la décision, il faut l'appliquer tout de suite. Pour une raison simple, c'est que si on attend encore un peu de temps, il y a d'autres éléments qui vont arriver et qui peuvent modifier la décision, voire nous faire hésiter. Je prends la décision, j'agis tout de suite. C'est ça la prudence. Je délibère et ensuite je prends une décision et je la mets en application très rapidement. Alors, si je fais le parallèle avec certains tempéraments qu'on a vus, je reparle du colérique. Bon, clairement, la décision, c'est un point fort chez le colérique. Lui, ça ne posera aucun souci pour prendre une décision. En revanche, il devra probablement travailler un peu sa phase de délibération, parce qu'il aura tendance à demander conseil à personne, à ne pas réfléchir et à aller prendre la décision tout de suite sans forcément réfléchir. C'est mon petit doigt qui l'a dit, c'est mon instinct, c'est ceci. Bon, lui, il a peut-être à travailler un petit peu là-dessus.
Alors, après la prudence, on a la vertu de courage. Donc là, on passe de la vertu de l'intelligence à la vertu de la volonté. Donc le courage, c'est la première vertu de la volonté. Et il s'agit de savoir prendre des risques et garder le cap. C'est pas l'expression de n'importe quel type de volonté, puisque là encore, je vais parler de volonté qui doit être bonne et juste. Il faut que ce soit moralement bon, que ça respecte la nature humaine, les principes fondamentaux et la dignité de la personne. D'accord ? Il y a trois notions pour le courage. Il faut qu'il respecte les principes fondamentaux de la nature humaine, la dignité de la personne, et il faut que nos objectifs et nos moyens soient justes. Le courage aussi, c'est savoir ne pas se laisser manipuler par la nouveauté. Donc c'est cette fameuse âme stable malgré l'instabilité du monde, de garder le cap. Le courage, donc, il est composé de deux notions. La notion d'audace, c'est-à-dire qu'on s'habitue à prendre des risques. Voilà, il faut être audacieux, il faut savoir passer à l'action. Une fois qu'on a délibéré et qu'on a pris la décision au niveau de la prudence, on passe à l'action, l'audace. On prend des risques et on s'assure, comme je vous l'ai dit, de la moralité des objectifs et des moyens. Alors, une fois qu'on passe à l'action, pour certains, notamment pour le colérique ou le sanguin, c'est facile d'être audacieux. Pour le sanguin, l'endurance, clairement, c'est à faire grandir. Voilà. Donc, l'endurance, c'est devenir persévérant, fidèle dans l'adversité. Il y a des obstacles, il y aura toujours des obstacles, mais on sait que notre action est bonne et qu'elle est juste, donc on va jusqu'au bout, malgré les malgrés. Et on s'assure aussi que notre persévérance, c'est pas le fruit d'un entêtement déplacé, mais parce qu'on défend une position qui est de principe juste et réfléchie. Voilà, donc une endurance qui est saine, quelque part. L'endurance, c'est le point fort du flegmatique et du mélancolique. Pour eux, c'est biologiquement, c'est assez facile. Maintenant, on va donc aborder la maîtrise de soi, qui est le fait de diriger nos passions. Et c'est aussi une vertu de la volonté. Alors, une passion. Moi, j'ai choisi toutes les vertus où il y a du bon et du mal. Hein. Donc là, les passions, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, comme vous nous disiez tout à l'heure, monsieur. C'est vertueux ou vicieux. Voilà. Et la passion, elle est bonne ou mauvaise et ça dépend de ce que nous décidons d'en faire. Parce que les passions nobles, elles nous poussent à faire des choses nobles. Et là, c'est vraiment la maîtrise de soi qui va nous permettre de mortifier toutes nos mauvaises passions pour développer les passions nobles et les faire grandir. Donc, notre rôle, c'est à chacun de prendre possession de notre caractère en faisant grandir nos passions nobles et en mortifiant tout ce qui nous avilit et nous asservit quelque part. Développer la vertu de vérité nous fait forcément mortifier le mensonge. Pour acquérir une âme stable, si on est dans le mensonge, on est forcément instable. On ne peut pas être en paix en vivant dans le vice. Pour acquérir une stabilité et la paix, il faut être dans la vertu. Le leadership vertueux, c'est viser l'excellence dans la personnalité humaine. Donc évidemment que les vertus vont faire partie de nous à part entière. Et il va falloir s'exercer à la mortification de nos vices. Ça exige également de l'humilité, la maîtrise de soi. Parce que on n'aime pas que les autres nous fassent des réflexions, des reproches, et en même temps, ils sont souvent nos miroirs. Ils nous permettent de voir des choses plus vite que nous-mêmes pourrions voir. Et il faut reconnaître nos mauvais penchants. C'est pareil, c'est être en vérité envers soi-même. Et au fur et à mesure de cet exercice de maîtrise de soi, on éprouve du plaisir. Plus on est dans la quête de maîtrise de nous-mêmes, plus on va être heureux de la pratiquer, parce qu'on va prendre du plaisir à faire le bien. La maîtrise de soi, donc c'est un point fort et un point faible chez le sanguin. Et c'est en revanche un point faible chez le flegmatique qui est complètement dépassionné. Donc lui, il va avoir du mal à être à sourire, à montrer aussi, à ennoblir un peu ses passions. D'accord ? Le flegmatique, il a besoin de faire grandir ses passions. La maîtrise de soi pour le flegmatique n'est pas du tout la même approche que la maîtrise de soi pour le sanguin. Ça n'a rien à voir. Le flegmatique, on va le faire, on va essayer de le passionner, alors que le sanguin, on va essayer de le on va lui faire acquérir la tempérance.
Dernière vertu de base pour devenir une personne accomplie, la justice. La justice, c'est pas un concept juridique, politique, je vais pas parler de ça. Hein. C'est donner à chacun son dû. Alors là, vous avez c'est composé de deux volets, la communion et le bien commun. Mais je pense que tout se synthétise en deux mots. Notamment pour la communion, c'est la notion d'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir comme vertu la justice si on n'aime pas les gens. C'est pas possible. Saint Jean-Paul II disait, on ne peut pas donner son dû à une personne que l'on n'aime pas. Donc tout est résumé dans cette phrase. Si on veut pratiquer la justice, il faut aimer les gens. C'est la base. Concrètement, ça veut dire quoi ? Être en vérité avec les gens. Même si la vérité fait mal parfois, quand on dit la vérité, c'est parce qu'on les aime. Être sincère aussi, bon, ça c'est la moindre des choses. Simple, empathie, ça l'écoute, l'empathie. Amicale, la joie. Voilà, amour et miséricorde, c'est un petit peu ce que j'ai dit, l'amour et le pardon. J'en prends souvent cet exemple parce que je le suis, le père de famille. Mon devoir, si je veux développer la vertu de justice, c'est tous les matins, je vais voir mes enfants, je leur fais un grand sourire et je les embrasse. C'est tout bête, mais c'est ça, hein, la justice. Donner à chacun son dû. Ça, c'est au niveau familial. Après, on va appliquer ça à d'autres niveaux. Hein. Comme on l'a dit, hein, au niveau social, au niveau dans l'entreprise, on peut l'appliquer à plein de choses. Et la justice, c'est aussi travailler pour le bien commun. Travailler pour la société. La vie de famille, la citoyenneté, par exemple, aller voter. Donc ça, c'était les quatre, en synthèse, donc les quatre vertus qui permettent de devenir une personne accomplie, la prudence, le courage, la maîtrise de soi et la justice. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir travailler ça toute notre vie. Les cages ne seront jamais cochées, d'ailleurs. Non, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est stimulant,
ce que,
en fait.
C'est ce que j'aime, moi.
Bien sûr, c'est très stimulant.
La question, c'est quelle est la part de l'éducation dans tout ça ? Et évidemment que pour faire grandir les vertus, c'est essentiel d'éduquer à la vertu. Ça ne va pas tomber du ciel. On aura beau prier pour nos enfants, faire tout ce qu'on veut, il y a quand même aide-toi et le ciel t'aidera. Et il faut passer à l'action. Et la justice de dire la vérité à nos enfants, si c'est bien ou mal, de tout ça, ça fait partie. Et pareil dans l'entreprise, dans le couple, parfois on ne dit pas à l'autre ce qui nous gêne parce qu'on ne veut pas d'histoire, on ne veut pas créer de conflit. Est-ce que c'est vraiment juste de pas remettre l'autre en question quand il y a quelque chose qu'on voit qui nous empêche de grandir ensemble, qui nous empêche d'aller vers la communion ? Tout ça, c'est vraiment des sujets qu'il est important de prendre de la hauteur sur les choses, sur les personnes qui nous entourent. Et c'est toujours pareil, c'est se rendre au service de l'autre en le faisant grandir dans les meilleures et dans les plus belles choses qu'il porte en lui. Donc ça nécessite, nous, de sortir un peu de nos zones de confort et de nos habitudes pour aller chercher tout ce qui est bon chez l'autre. Alors justement, on va parler de la magnanimité. Maintenant, donc là, on parle des deux vertus du cœur qui sont la magnanimité et l'humilité. Donc la magnanimité, c'est tendre vers les grandes choses. Cette vertu du cœur, c'est quelque part aussi, c'est une quête de l'esprit. La magnanimité, c'est pas de l'orgueil. Le magnanime, il comprend sa force, sa dignité et sa grandeur telles qu'ils sont reçus de Dieu. C'est pas sa propre activité qui va rendre quelqu'un de magnanime. C'est vraiment le fait de tendre vers le plus beau, vers le meilleur, mais toujours en étant au service de l'autre. Et quand on est magnanime, on recherche la grandeur, mais on ne recherche jamais la reconnaissance. La magnanimité, c'est la première vertu spécifique du leader. Donc il y a ces deux composantes qui sont d'être conscient de ses forces, de ses faiblesses, de ses talents, et le fait de passer à l'action, ça permet aussi de prendre conscience de notre propre dignité. Le mélancolique, qui est l'idéologue par excellence, qui veut un monde meilleur, qui a plein de belles idées, s'il ne les met pas en action, en application, ça va rester dans son monde intérieur. D'accord ? Donc, il faut partager tout ce désir de grandeur pour éveiller justement le flegmatique des passionnés. Voilà, tous ceux qui ont ces visions de grandeur, eh ben, qui passent à l'action et qui fassent de leurs rêves un projet. Il y a deux notions dans la magnanimité, la contemplation et l'action. Donc la contemplation, je l'ai dit, hein, c'est le rêve, la conscience de sa dignité propre et de ses forces et ses talents. Et l'action, qui est quelque part notre mission. Comment on développe la magnanimité ? La magnanimité, c'est un phénomène d'osmose. Le milieu qu'on va se créer autour de nous, notre environnement, nos amis, notre entourage, les films que l'on regarde, les lectures qu'on lit, les musées, les peintures qu'on voit, le paysage qu'on contemple, tout ça, ça développe la magnanimité. On va passer moins de temps à critiquer, mais quand même, aujourd'hui, on se rend bien compte que les écrans, le téléphone, l'intelligence artificielle, tout ça, ça réduit, vous voyez, les limites qui s'imposent à l'homme. Alors que la magnanimité, c'est le fait de sortir de toutes ces limites pour rechercher la grandeur en tout. Et maintenant, on va parler de l'humilité.
Donc c'est la deuxième vertu du leader, c'est également une vertu du cœur. Donc l'humilité, donc voilà, c'est écrit connaissance de soi et service aux autres. Alors connaissance de soi, c'est en gros avoir conscience qu'on est une créature de Dieu. Voilà, donc conscience de notre condition d'être créé par Dieu. Conscience de nos forces et faiblesses. Misère et faiblesse, et de nos talents. C'est ce qui est écrit ici. Moi, j'ai résumé en disant force et faiblesse. Souvent, la personne qui ne reconnaît pas ses talents, on lui dit, oh là là, quelle humilité. Non, bah lui, il n'est pas humble. Non. La personne humble, en tout cas qui pratique la vertu d'humilité, c'est celui qui a conscience de ses talents. Hein? C'est important, ça. Mais l'humilité, c'est l'autre volet, c'est aussi avoir conscience de ses misères et de ses faiblesses. Donc, de ses misères d'être humain, avec tous les péchés qui sont inhérents à l'être humain. Ça, c'est la vraie humilité. Donc vous voyez que ce soit la magnanimité ou l'humilité, on est quand même quelque chose, donc quelque chose, le cœur, c'est beaucoup plus spirituel que les autres vertus. Donc ça, c'est l'humilité, en tant que connaissance de soi. Après, vous avez l'humilité plutôt service aux autres. C'est ce qu'on appelle l'humilité fraternelle. Bon, ben, quand on parle de leader, le leader, c'est celui-là, hein, c'est celui qui fait grandir les autres. Donc c'est ça, l'humilité fraternelle, c'est faire grandir les autres. C'est tirer les autres vers le haut. C'est les tirer plutôt que les pousser. C'est inspirer plutôt que commander. C'est enseigner plutôt que contrôler. C'est déléguer plutôt que faire. Ça fait grandir les gens. Quand je reviens toujours sur cet exemple, parce que j'ai du mal, moi. Mais quand on délègue, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps de faire. Quand on délègue quelque chose à un enfant ou à un collègue au travail, ça doit être aussi pour le faire grandir. Ça, c'est pratiquer l'humilité. C'est ça le service aux autres. C'est les faire grandir dans leur dignité de personne. Alors, il y a plein d'exemples hein, comme ça. Je pense qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, non. Mais juste un exemple que vous avez peut-être entendu, Édouard Michelin. Ah, donc très grande entreprise française, je vous passe les détails, vous tapez sur internet, vous avez même des livres dessus je pense. Il avait recruté quelqu'un à l'imprimerie, monsieur Mignol il s'appelait, Son prénom, c'est, je ne sais, Marius Mignol. Pourquoi ? Parce qu'il était fils d'imprimeur, donc il était à l'imprimerie. Et Monsieur Michelin sentait quelque chose chez lui. Donc il a dit non, changez-le de service. Mettez-le au service commercial. Alors qu'il n'était pas du tout, il n'avait pas du tout d'école de. Il n'avait pas fait d'école de commerce, enfin, ou je ne sais pas quoi. Il n'avait pas de diplôme. Et là, il avait inventé une règle. Pour, donc c'était dans les années 1940, hein, je crois, 1950. Il n'y avait pas de calculatrice forcément très perfectionnée. Donc il avait inventé une règle, lui, pour convertir les devises. Il s'était fabriqué un outil. Et là, M. Michel a dit, attendez, il est hyper créatif, mettez-le dans le département recherche et développement. Et en fait, M. Mignol, c'est l'inventeur du pneu radial. Donc il a révolutionné le pneu, parce qu'auparavant, avant le pneu radial, quand vous dépassiez les 100 km/h, les pneus éclataient. Hein. Donc c'était un souci pour l'industrie automobile. Donc ça a révolutionné voilà, l'industrie du pneu. Et voilà, je vous donne cet exemple parce que voilà, M. Michelin, il a réussi à faire très clairement à faire grandir quelqu'un. Alors ça peut être très caricatural, et en plus c'était un succès commercial derrière. Donc tout bénéfice pour lui. Donc c'est ça l'humilité. Donc comment développer l'humilité ? Bah, c'est montrer l'exemple. C'est pardonner aussi quand on se plante, hein. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé. C'est déléguer, voilà, faire sortir le meilleur des personnes. Donc voilà les deux vertus
du cœur.
Les deux vertus du cœur pour devenir voilà, leader. Dans le sens faire grandir les autres. Hein. Je le répète parce que souvent c'est galvaudé, hein, cette notion de leader. Hein. Donc on a parlé des tempéraments. Donc je le répète, le tempérament c'est quelque chose de naturel, biologique, c'est un don de Dieu, on n'y peut rien. On est flegmatique, on est colérique, on est mélancolique ou on est sanguin. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire une fois qu'on connaît son tempérament ? C'est entretenir nos forces pour qu'elles deviennent plus spirituelles que naturelles et faire grandir d'autres vertus, d'autres points faibles. Alors, ça va être difficile de faire grandir toutes les vertus. Donc, il y a des vertus, ce qu'on appelle les vertus défi. C'est peut-être la vertu qu'il faut développer en priorité pour tel ou tel tempérament. C'est ça, c'est comme ça. Hein ? Donc la vertu qu'on doit développer en priorité. Alors d'après vous, le colérique, maintenant que vous savez que vous avez tout compris, quelle est la vertu qu'il doit développer en priorité ? On a vu, hein ? Je vous les rappelle. Le colérique, peut-être que... Alors il a une énorme confiance en lui, mais peut-être qu'il n'a pas conscience que tous ses talents, en fait, lui ont été donnés par Dieu. Voilà. C'est pas le fruit de son travail. Il a cette chance-là. Il a la chance de prendre des décisions vite, il a la chance d'être courageux, il a la chance aussi, mais il faut qu'il ait conscience de ça. Donc ça nécessite un petit peu de travailler l'humilité.
Et aussi c'est quelqu'un... de se mettre au service des autres.
Et alors, c'est ce que j'allais dire, mais je pense que tu veux le dire mieux que moi, peut-être.
Non, et aussi de se mettre au service des autres en faisant avancer les choses, parce qu'on a besoin d'avancer, hein, de faire avancer les choses, c'est nécessaire, qu'ils prennent tremplin sur cette énergie qu'il a à vouloir faire avancer les choses, en se mettant au service des autres. En faisant grandir les autres autour de lui pour atteindre un projet. Alors, quelle serait la vertu à développer du mélancolique ? C'est facile. Le courage.
Oui, le courage. Quelle composante du courage ?
En particulier parce qu'on a dit que le mélancolique, il était, c'est composé de quoi le courage ? Bravo.
Audace, endurance.
L'endurance, ça va pour le mélancolique. Par contre, l'audace pour le mélancolique, c'est à développer.
Prendre des risques,
voilà.
Se mouiller un petit peu.
Et pour le mélancolique, de se dire, bon, je vais accepter que mon idée, que ce soit le fait de passer à l'action, ça ne soit pas parfait, que le résultat soit imparfait. C'est un gros travail pour le mélancolique. Et ça, c'est important dans l'accompagnement de vraiment tenir compte de ça, parce que c'est des personnes qui sont très, qui peuvent être très blessées. Donc, il faut les accompagner dans le détachement du résultat pour qu'ils arrivent à passer à l'action. Parce qu'ils ont tellement de belles idées. Ce sont des idéologues. Donc, on a besoin d'eux dans la société. Et il faut les aider à grandir pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont. Je continue. Le sanguin. Quelle serait la vertu du sanguin à développer ?
La maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. Absolument.
C'est endurance.
Donc, l'endurance. Le sanguin, il a la maîtrise de soi à développer. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et l'endurance, parce que, comme on a dit, il est tout le temps enclin à
En fait, il s'ennuie très rapidement.
Ouais.
C'est la nouveauté, la nouveauté, la nouveauté, l'amusement. Donc à partir du moment où c'est pas nouveau
et
qu'on s'amuse plus, je passe à autre chose. Donc en fait, il a cette tendance à jamais terminer les trucs. Voilà. Donc effectivement, l'endurance, c'est sa vertu défi. Tout à fait. Le flegmatique, la magnanimité, c'est quelqu'un de complètement dépassionné. Il y a pas passionné au sens émotionnel. Donc quand tu as dit que la magnanimité, c'était voir grand, il faut rêver pour voir grand. Bon, il faut aider le flegmatique à rêver, hein, et à devenir un peu plus passionné, comme il est complètement dépassionné. Donc clairement, c'est la magnanimité. L'aider à voir les choses en grand. Voilà, ça c'est clairement sa vertu défi. Et j'avais une autre anecdote aussi, vous connaissez, lui c'est Thomas Edison. Alors il y a une anecdote aussi parce que, alors c'est pas forcément lui qui est un grand leader. J'aime beaucoup son histoire, je sais pas si ça a un rapport avec l'atelier, mais j'aime beaucoup cette histoire. C'est donc quand il était au collège, sa maman a reçu, il a perdu son papa très tôt, sa maman a reçu une lettre un jour. Et en ouvrant la lettre, elle s'est effondrée devant son fils. Elle s'est effondrée devant son fils. Et donc petit Thomas a dit, mais qu'est-ce qu'il y a maman, qu'est-ce qui va pas? Il dit, non, tout va bien, c'est le collège qui m'écrit, tu es un génie, il faut qu'on te change de collège, tu peux pas rester dans ce collège.
Non, personne ne saura t'accompagner.
Personne ne saura t'accompagner dans ce collège. Il faut que tu changes de collège, tu es trop...
Je vais te faire l'école. C'est elle qui l'a instruit après.
Je ne sais plus, peut-être. Bref. Et donc, quelques années plus tard, donc, sa maman est décédée. Et en rangeant ses affaires, il retombe sur cette lettre. Et quand il regarde la lettre, en fait, ce n'était pas du tout écrit ça. C'était écrit, votre enfant est nul. Il n'arrivera à rien dans la vie. On ne peut plus le garder dans ce collège. Donc ça, c'est un autre... Alors, Thomas Edison, c'est le scientifique qui a le plus de brevets au monde, hein. Cinéma, photo, éclairage, tout. Donc voilà, une autre personne qui a clairement appliqué le leadership vertueux, c'est sa maman, tout simplement. Vous avez vu comme elle l'a fait grandir. Alors, c'est très caricatural, attention, mais c'est juste pour vous faire réagir sur ce sujet. Et voilà, elle l'a fait grandir en une seule phrase, très clairement. Voilà.
La conclusion, donc aujourd'hui, on est au Festival Marial. On est dans le thème de ce festival, c'est l'unité. Donc j'espère que tout le monde a bien compris que notre unité, eh bien, elle est composée de nos différences et que c'est grâce à nos différences que nous sommes complémentaires. Et c'est pour ça qu'on a fait cet atelier cette année et ça tombait très bien avec le thème du festival parce que voilà, on va tous s'enrichir de nos différences pour être complémentaires et pouvoir faire grandir l'unité entre nous.